Le problème de l'extraction des ressources, le cercle infernal. Si une augmentation du PIB veut dire plus de machines qui consomment plus d'énergie, donc plus de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries pour les alimenter, alors il faut poser la question des ressources. Puisque la productivité des humains, quel que soit le domaine, secteur primaire, secondaire ou tertiaire, dépend d'outils toujours plus gourmands en énergie, et dont il faut sans cesse accroître la production, ne sommes-nous pas voués à trébucher sur la finitude des ressources minérales que la planète peut nous fournir? Tout dépend des technologies que l'avenir nous réserve et des métaux, plus ou moins rares, nécessaires à leur production. Il y a ici des incertitudes très importantes et aucun scénario ne fait réellement consensus. Cependant, la Banque mondiale, dans un document de 2017, fait la liste de 15 métaux dont la production devra s'accélérer pour permettre le développement des énergies renouvelables et des capacités de stockage qui leur sont associées. Aluminium, chrome, cobalt, cuivre, indium, fonte, fer, plomb, manganèse, molybdène, néodyme et autres terres rares, nickel, argent, acier et zinc. Le rapport mentionne également qu'un système énergétique décarboné, sans énergie fossile, nécessite une infrastructure beaucoup plus lourde que celle dont nous disposons aujourd'hui. Rappelez-vous, 189 éoliennes offshore de 200 mètres de hauteur fournissent trois fois moins d'énergie qu'une seule centrale à charbon vieille de 50 ans. Il va donc falloir déployer une formidable armada d'engins miniers et d'usines pour fabriquer tout ce dont nous avons besoin pour devenir une civilisation renouvelable, tout en sachant que les métaux sont aussi nécessaires à la production de toutes les machines que nous utilisons au quotidien et qui n'ont rien à voir avec la transition énergétique. Or, si la question de la disponibilité de tous ces métaux est importante et incertaine, le vrai problème est peut-être ailleurs. Lorsque vous tombez sur un champ de cailloux d'environ 1 kg chacun, contenant 100 g du métal que vous recherchez, il est évident que l'effort à produire pour l'extraire sera largement moindre que si les cailloux à broyer font une tonne, qu'il faut creuser sous une montagne pour les atteindre, et que la quantité de métal qu'ils contiennent ne dépasse pas 1 gramme. Évidemment, nous ne nous sommes pas intéressés aux mines difficiles d'accès et peu concentrées en minerais en premier, si bien que, plus le temps passe, plus la concentration dans les exploitations minières diminue. Cela signifie que l'effort nécessaire pour obtenir les métaux dont nous avons besoin pour fabriquer nos machines est toujours plus grand. Or, qui dit effort important pour extraire les métaux ne dit bien sûr pas ouvrier plus musclé, mais bien machine plus puissante. Et qui dit machine plus puissante dit machine plus gourmande en énergie. Sentez-vous pointer dans votre esprit le museau de la boucle de rétroaction infernale? Plus de machines pour la croissance, transition énergétique ou pas. Donc plus d'énergie et de métaux de moins en moins concentrés. Donc plus d'énergie pour les extraire. Donc plus de machines, donc plus de métaux, donc plus d'énergie. En d'autres termes, l'augmentation de la quantité d'énergie que l'on peut fournir à l'économie dépend d'un processus industriel qui consomme lui-même de l'énergie. C'est un peu comme le renard qui chasse le lapin. Le premier doit pouvoir extraire plus d'énergie de la consommation du deuxième, sans quoi il finira par mourir de faim. Mais au-delà de ça, la consommation du lapin doit également dégager un surplus énergétique suffisant pour permettre la croissance du renard. Si les lapins deviennent de plus en plus rares et le renard de plus en plus gros, on sent bien qu'une limite va finir par être atteinte. Tout dépend aussi bien sûr de la population initiale de lapins et de l'amélioration des techniques de chasse du renard, ce qui complique grandement le problème et rend toute prédiction très incertaine. Tout comme le renard de mon exemple, la quantité d'énergie extraite des nouvelles éoliennes, panneaux solaires et batteries que nous construisons doit non seulement être supérieure à la quantité d'énergie investie dans la fabrication et la pose du système, mais le surplus doit également permettre l'extraction des métaux ainsi que la fabrication et l'utilisation de toutes les autres machines qui permettent la croissance du PIB. On dit qu'il faut que le taux de retour énergétique, TRE pour les connaisseurs, soit suffisamment grand. Or, l'évolution de ce TRE va dans le bon sens quand nous découvrons de nouvelles technologies peu consommatrices d'énergie et basées sur des métaux facilement accessibles, mais dans le mauvais sens au fur et à mesure que nos insatiables besoins en matières premières, en énergie et en machines augmentent. Où est la limite? Le défi des renouvelables va-t-il nous mettre en face de cette dernière? Arriverons-nous seulement à atteindre notre niveau de PIB actuel avec des renouvelables? La question est posée et personne ne peut l'écarter d'un revers de la main. Le miroir aux alouettes du recyclage. Peut-être vous dites-vous que les métaux ne sont pas des ressources utilisées de la même manière que le pétrole, le charbon et le gaz, qui sont détruits à l'usage. Tous les métaux rares présents dans nos smartphones sont encore là quand nous remplaçons ces derniers. Ne suffirait-il pas de recycler tout ce que nous produisons pour éviter le problème de la baisse de concentration des métaux? Extraction de métaux, production, utilisation, recyclage, production, utilisation, recyclage, etc. Plus besoin de l'extraction de métaux, coûteuse en énergie et polluante. C'est une belle histoire, mais comme souvent, la réalité est plus complexe. Tout d'abord, puisque plus de PIB veut dire plus d'énergie consommée, il faudra toujours produire plus d'éoliennes et de panneaux solaires pour assurer la croissance. Or, pensez-vous que le recyclage de nos vieilles machines soit suffisant pour permettre à la fois la fabrication de leurs remplaçantes et celle des nouvelles infrastructures énergétiques? De plus, recycler les composants d'une machine est un processus coûteux en énergie. Il faut collecter la vieille machine, la transporter jusqu'à l'usine de recyclage et, surtout, utiliser des produits et processus chimiques, chauffage, électrolyse, qui nécessitent eux aussi de l'énergie. Plus les composants sont présents en petite quantité, ce qui est le cas dans toute l'électronique, plus le recyclage est coûteux en énergie, voire techniquement impossible. Ainsi, le recyclage n'échappe pas au problème du TRE. Il faut ajouter à cela le fait que de nombreux usages sont dispersifs, ce qui rend le recyclage impossible. Philippe Biwix l'explique très bien dans L'âge des low-tech. Perte par dispersion, à la source, perte mécanique, la boîte de conserve, l'agrafe et le stylo partis en décharge, perte fonctionnelle, par recyclage inefficace, perte anthropique, marginale. Tel est notre destin. Le cercle vertueux de recyclage est percé de partout. Et à chaque cycle de consommation, on perd de manière définitive une partie des ressources. On n'ira pas gratter la peinture anti-corrosion à l'étain ou au cuivre sur les vieux bateaux. On n'ira pas ramasser sur les bitumes des autoroutes les particules de zinc, de cobalt, usure des pneus, ou de platine, faible rejet des pots catalytiques. On ne sait pas récupérer les métaux présents en quantité infime sur une carte électronique. La mauvaise interprétation de l'effet prix. Les économistes et les financiers mettent parfois l'accent sur le prix des ENR, les énergies renouvelables, qui ne fait que diminuer. Internet regorge de graphiques qui montrent que le prix d'un panneau solaire est passé de 100 dollars par watt de puissance en 1975 à 0,6 dollars aujourd'hui. Mais le prix ne reflète rien d'autre que la capacité industrielle des énergies fossiles à fabriquer des panneaux solaires. Effectivement, avec toutes les machines qui fonctionnent au pétrole, au gaz et au charbon, notre puissance et notre efficacité sont telles que nous pouvons faire diminuer drastiquement le prix des ENR. Cela est dû au fait qu'un nombre réduit d'hommes et de femmes ont besoin de mettre la main à la pâte pour produire des machines solaires et éoliennes. Mais cela n'est possible que parce que les machines à énergie fossile fonctionnent à plein régime et que les ressources minières sont pour le moment relativement abondantes. Or, le premier facteur doit aller en diminuant si nous voulons combattre efficacement le réchauffement climatique. Et le second diminue du fait de la baisse de la concentration des ressources. Encore une fois, tout dépend aussi de l'évolution des technologies futures qui emploieront des métaux plus ou moins rares. Bref, nous sommes pris dans de multiples boucles de rétroaction très complexes et incertaines, ce qui nous empêche de nous projeter. Les prix des ENR ne font pas exception à la règle, et leur évolution passée ne doit pas être considérée comme une tendance amenée à perdurer de façon certaine. La menace du pic pétrolier. L'autre épée de Damoclès suspendue au-dessus du futur de la croissance du PIB, c'est le fameux pic pétrolier. Une source d'énergie limitée. Peut-être savez-vous que le pétrole dit « conventionnel », celui qui autrefois sortait sous forme de geyser quand on creusait au bon endroit comme dans Tintin en Amérique, a atteint son pic de production en 2006, selon l'Agence internationale de l'énergie. En effet, puisqu'il existe une quantité finie de pétrole sous nos pieds, il est impossible de continuer à en extraire toujours plus chaque année ad vitam aeternam. Or, il se trouve que le pétrole peut être extrait des entrailles de la planète sous plusieurs formes. Pour simplifier, il en existe trois. Le pétrole liquide est facile à pomper, dit conventionnel, dont l'Arabie saoudite possède les plus grandes réserves. Le pétrole bitumineux mélangé à du sable, que l'on trouve notamment dans la région de l'Alberta au Canada, et dont l'exploitation provoque des dégâts environnementaux considérables. Et le pétrole de roche-mer, parfois appelé pétrole de schiste, dont les États-Unis sont le champion toute catégorie depuis 2012. Les pétroles bitumineux et de roche-mer sont connus depuis des décennies, mais ils n'avaient jamais réellement été exploités jusqu'à récemment. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à extraire et à traiter pour les transformer en quelque chose d'utilisable. Autrement dit, leur taux de retour énergétique est plus faible que celui du pétrole conventionnel. Faisons un point sur le taux de retour énergétique des combustibles thermiques. Une unité d'énergie investie pour l'extraction de charbon fournit par la suite 46 unités d'énergie par la combustion de ce charbon. Le taux de retour énergétique du charbon est donc 46. Appliqué au pétrole et au gaz, ce taux descend à 21. Et l'extraction de pétrole non conventionnel, pétrole de schiste et sable bitumineux, offre un taux de retour énergétique beaucoup plus faible, moins de 10. Le problème est donc toujours le même. La croissance du PIB est indexée sur la quantité d'énergie que l'humanité est capable d'extraire de l'environnement pour la mettre à son service. Plus les TRE baissent, plus les machines utilisées pour extraire l'énergie consomment elles-mêmes une grande quantité d'énergie, ce qui laisse l'humanité avec de moins en moins de marge de manœuvre pour produire d'autres richesses. Le gros problème du quasi-monopole du pétrole dans les transports. De plus, le pétrole pose un autre problème. 95% des moyens de transport fonctionnent avec un dérivé du pétrole. Or, le système économique tel que nous le connaissons aujourd'hui ne peut pas fonctionner sans transport. Prenons un exemple. Nos smartphones contiennent 75 des 118 éléments du tableau périodique. Le silicium des transistors peut venir d'Australie, l'or des câbles électriques d'Indonésie, l'indium des écrans tactiles du Pérou, le lithium des batteries de Chine, le cobalt, aussi dans les batteries, de République démocratique du Congo, mais raffiné en Chine. Et enfin, les terres rares, présentes dans presque tous les composants des smartphones, et au passage extrêmement polluantes à extraire, de Chine. Une fois tous les matériaux sourcés, une entreprise comme Apple utilise plus de 200 fournisseurs dans le monde entier. États-Unis, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Singapour, Allemagne, Royaume-Uni, Mexique, Belgique, France, pour la fabrication des différentes pièces, puis les fait assembler par le géant taïwanais Foxconn à Changzhou, en Chine. Autrement dit, les matières premières présentes dans nos téléphones portables ont fait plusieurs fois le tour du monde avant d'atterrir dans nos poches. La globalisation de l'économie n'est possible que parce qu'il existe des moyens de transport fiables et peu coûteux. Or, la densité énergétique du pétrole, sa forte disponibilité et sa facilité de stockage, liée au fait qu'il est liquide à température et à pression ambiante, a fait de lui la source d'énergie incontournable de la mondialisation. Le pétrole est la colonne vertébrale du système de transport mondial, et donc la colonne vertébrale de l'économie et de la croissance du PIB. Certes, les moteurs électriques sont de plus en plus populaires, mais il faudra des dizaines d'années, si cela est même possible, pour que l'ensemble du parc de véhicules utilisant encore du pétrole soit remplacé, plus d'un milliard de voitures sur Terre, contre seulement 5 millions de véhicules électriques en 2018. Cela signifie que si l'extraction de pétrole cesse d'augmenter, ou que les régulations environnementales limitent son utilisation pour combattre le réchauffement climatique, alors la capacité de transport mondial sera réduite, ce qui provoquera, parce que sans transport les chaînes logistiques sont brisées, une contraction du PIB. La quadrature du cercle des énergies fossiles. Récapitulons. Le monde que nous connaissons aujourd'hui s'est façonné autour d'inventions telles que la machine à vapeur, le métier à tisser, le moteur à combustion, les ordinateurs connectés en réseau. Toutes ces machines ont permis de démultiplier notre capacité à transformer notre environnement afin de tout rendre plus rapide et confortable. Notre meilleure productivité économique n'a pas grand-chose à voir avec le fait que nous soyons plus intelligents que nos grands-parents, mais beaucoup plus avec le fait qu'une énorme partie du travail est aujourd'hui effectuée par des machines plus puissantes et plus rapides que nous. La boucle de rétroaction est positive. Plus les machines deviennent efficaces, plus elles nous libèrent du temps que nous pouvons consacrer à les rendre encore plus efficaces. Mais l'efficacité de ces machines et l'intensité de leur utilisation sont totalement dépendantes de notre capacité à extraire de l'environnement suffisamment d'énergie pour les nourrir. C'est ici qu'interviennent les énergies fossiles, qui présentent une incroyable concentration énergétique. Il y a, par exemple, autant d'énergie dans 60 gouttes de pétrole, 3 millilitres, que dans tout l'air propulsé à 80 km/h, que contient un appartement de 400 m². Or, les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, qui représentent actuellement 85% du carburant utilisé par nos machines, ne sont pas renouvelables, leur stock s'épuise, et émettent du CO2 qui réchauffe la planète. Leur remplacement par les ENR représente un défi technique. Il faut tout adapter ou reconstruire. Et physique, les ressources en métaux et les taux de retour énergétique sont peut-être insuffisants, doublés d'une course contre la montre, pic pétrolier et réchauffement climatique. Pour toutes ces raisons, le monde en croissance économique permanente, sauf rares exceptions, auxquelles nous sommes habitués depuis 2 siècles, est très largement menacé. Pourquoi les crises de la demande ? Le moment est venu de plonger dans l'explication des crises de la demande, que je vais aborder sous l'angle des crises financières. Comme leur nom l'indique, celles-ci se matérialisent par un problème de financement. Parce que les dépenses des uns entraînent les revenus des autres, les crises financières provoquent, par le biais d'un ralentissement des dépenses des agents économiques, une diminution des revenus. D'où viennent de tels ralentissements ? La crise spéculative, mode d'emploi. Les deux principales récessions mondiales, la Grande Dépression des années 1930, la crise de 1929, et la Grande Récession de 2008, crise des subprimes, sont des crises de la demande, ralentissement des dépenses mondiales, dont l'élément déclencheur est une crise financière spéculative. Le mécanisme est relativement simple à comprendre quand on connaît la vérité sur la création monétaire. Phase 1. Formation de la bulle spéculative. Tout commence alors que la situation économique est plutôt stable et favorable à la croissance. Les banques de dépôt sont relativement rassurées quant à la capacité des agents économiques, à qui elles accordent leurs promesses de mise à disposition de billets, crédits créateurs de monnaie, d'annuler leurs promesses de remboursement par le biais de la collecte de promesses existantes, remboursement des crédits. Parce que la situation est bonne, les banques relâchent leur attention et se mettent à accorder de plus en plus de nouvelles promesses de mise à disposition de billets. Certains projets financés sont spéculatifs par nature, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour objectif la création de nouvelles richesses, participation au PIB, mais simplement de tirer profit de la prise de valeur d'une richesse existante, bien immobilier ou financier. Comme les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, les prix augmentent relativement rapidement, si bien que les spéculateurs récupèrent davantage que leur mise de départ lorsqu'ils finissent par vendre. Les promesses de remboursement faites aux banques sont tenues et les banques touchent des intérêts. Les bénéfices des spéculateurs attirent de nouveaux joueurs. Il y a deux types de joueurs. Les spéculateurs dits Ponzi, du nom de Charles Ponzi et de la fameuse pyramide qui porte désormais son nom, qui s'endettent pour acheter et qui comptent sur la revente du bien immobilier ou financier pour rembourser le crédit bancaire. Les spéculateurs modérés qui s'endettent également pour acheter mais qui ont la ferme intention de rembourser en utilisant les revenus issus d'une activité économique créatrice de richesses. Je simplifie ici volontairement le propos, on parle de spéculation quand la hausse des prix est sans rapport avec l'activité économique réelle. Si tel est le cas, tout agent économique qui participe à la hausse des prix est un spéculateur, peu importe s'il utilise de la dette ou ses propres revenus pour financer son achat. Nous verrons plus tard que la spéculation prend naissance dans la logique de formation du prix. Les agents économiques sont supposés baser leurs décisions d'achat et de vente sur des analyses économiques, reposant sur le potentiel de richesse qu'un bien peut permettre de créer, et pas sur des analyses financières, reposant uniquement sur le potentiel de prise de valeur du bien. Tous sont des spéculateurs car ils espèrent s'enrichir par le biais d'une activité qui ne crée aucune richesse réelle. Attention, les spéculateurs Ponzi et les spéculateurs modérés ne sont pas forcément des particuliers. Les entreprises font aussi partie du lot. Leur participation est même plus importante que celle des particuliers car leur force de frappe financière est plus importante. Le carburant d'une bulle spéculative vient du rapport entre les volontés d'entrée et les volontés de sortie. Tant que le nombre de joueurs voulant entrer, acheteurs, est supérieur au nombre de joueurs voulant sortir, vendeurs, les prix montent. Notez que les bénéfices des joueurs sortants sont financés par les crédits bancaires, nouvelle monnaie, accordés aux joueurs entrants. Reprenons étape par étape le mécanisme de la bulle spéculative. 1. Le nombre de joueurs voulant entrer, équivalent à la demande, les potentiels acheteurs, est plus important que le nombre de ceux qui souhaitent sortir du jeu, équivalent à l'offre, les potentiels vendeurs. C'est ce brusque changement dans le rapport de force, les vendeurs ont l'avantage, donc ils fixent leur prix, qui provoque la hausse des prix. 2. Le financement des achats est principalement assuré par la création monétaire, promesse de mise à disposition de billets. C'est pour cela que la bulle ne manque jamais de financement. Cela dit, les banques alimentent aussi le marché du neuf, économie réelle, créateur de nouvelles richesses, et donc de PIB. 3. Les spéculateurs Ponzi utilisent la monnaie issue des ventes pour rembourser les crédits bancaires. 4. Les spéculateurs modérés utilisent les revenus de l'économie réelle pour rembourser les crédits. Ils ne cherchent pas à vendre leurs biens.